Alors, comme promis, nous retrouverons Magali Brieussel à la géosphère. Rebonjour Magali.
Rebonjour.
Alors, continuons avec des coups de cœur de libraires, de livres de voyage, qui ont trait au voyage, qui nous parlent d'ailleurs.
C'est ça.
Alors là, on va être dans un ailleurs qu'on qualifie d'extrême, l'extrême-orient. Hein. Alors, on s'en est emmené en Corée.
Mais la Corée du Nord, attention.
Et en plus
Effectivement,
donc la Corée impénétrable.
Mais
en tout cas, elle a cette réputation-là.
Oui, alors en fin de compte, il y a quand même possibilité de voyager en Corée du Nord. C'est très, très balisé. Mais effectivement, ce n'est pas commun. Donc c'est ce que raconte Martin Leroux dans « L'envers du monde, retour de Corée du Nord ». C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste, une petite maison d'édition indépendante de Marseille. Et dans ce livre, alors Martin Leroux, c'est un jeune écrivain voyageur, et là il raconte 7 jours. Il y a passé 7 jours en Corée du Nord. C'est un voyage qui est balisé, voilà, il ne peut pas aller n'importe où, il a un guide qui l'autorise ou ne l'autorise pas à aller à tel ou tel endroit, il y a une liste.
Interroger telle ou telle personne
ou pas.
C'est ça,
bon, en général pas. Hein.
Oui, en général personne.
Voilà. Il y a une liste au départ de choses à ne pas faire, d'objets à ne pas rapporter, ni à l'aller ni au retour, enfin c'est assez curieux.
Donc inutile de dire qu'il n'y a pas d'illustration dans le...
Eh ben,
dans le
si,
livre,
en fait,
si,
il
si,
y a des photos, mais
des illustrations autorisées.
Quelques photos, alors une photo de l'intérieur du minibus, mais une photo aussi de, je pense que ça c'est un palais présidentiel avec une rangée de drapeaux. Il y a une photo assez impressionnante d'une statue, un pont-statue qui enjambe une route, enfin c'est vraiment marquant. Donc il y a quand même quelques photos. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur va au-delà du côté sensationnel d'aller dans un pays, enfin dans une dictature, parce qu'on peut être quand même gêné aux entournures de lire ce genre de récit avec un côté peut-être un peu voyeuriste. Et lui, il y va pas trop dans cette optique-là. Il y va aussi pour s'interroger sur le sens du voyage. Qu'est-ce que c'est le voyage quand on peut pas aller où on veut ? Qu'est-ce que c'est la liberté quand nous on en a, mais que les gens qu'on va voir n'en ont pas ? Et qu'est-ce que c'est est-ce qu'il faut s'interdire d'aller dans des dictatures sous prétexte que c'est des dictatures et donc leur enlever cette minuscule fenêtre ouverte sur le monde et finir par en fait contribuer à cet enfermement. Enfin voilà, il va vraiment au-delà juste du récit de voyage pur et dur. Il s'interroge sur le sens que peut avoir un tel voyage. Et c'est ça que j'ai trouvé bien fait. Il écrit ça de manière assez alerte avec. Pas mal d'autodérision et puis toujours une peur latente, la peur de faire un faux pas qui pourrait l'emmener en prison, parce qu'en fait, ça c'est déjà arrivé hein, que des touristes occidentaux soient incarcérés en Corée du Nord parce qu'ils avaient fait quelque chose...
Sont sortis d'itinéraires prescrits ou
exactement.
Des choses comme ça.
Ouais. Donc il y a quand même une menace qui plane et qui le retranscrit très bien. Donc voilà, c'est un récit de voyage un peu hors norme, mais qui a vraiment le mérite d'être fin. Sur un sujet qui peut être un peu, pardon pour l'expression, mais un peu casse-gueule.
Oui, oui. Et puis, non, j'entends quelque chose qui sort de l'anecdotique de ce voyage-là pour questionner l'idée même de voyage.
Oui, c'est ça.
Et qu'on peut effectivement interroger. Qu'est-ce que les touristes occidentaux vont faire dans des pays où les gens n'ont pas à manger tous les jours?
C'est ça.
Y a, pour certains ne veulent pas le faire parce qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose d'indécent.
Et c'est des questions qu'il faut se poser, je pense, quand on voyage, clairement.
Oui.
Mais est-ce qu'il faut renoncer au voyage pour autant? La question doit être posée aussi, je pense.
Et du coup, quel type de voyage?
C'est ça.
Alors, voilà, Martin Leroux, L'envers du monde, retour de Corée du Nord. Faut bien le préciser, un éditeur qui s'appelle Le Mot et le Reste. Je ne connaissais pas cet éditeur.
Gagne à être connu.
Gagne à être connu.
Ah, ouais.
Alors, on retiendra le nom de l'éditeur, Le Mot et le Reste. Et puis, on passe à un roman qui est avec une interrogation. On a envie de répondre avec un accent sans doute, mais un Égyptien peut-il parler anglais?
C'est un roman d'une autrice américaine d'origine égyptienne qui s'appelle Noor Naga. Donc c'est une traduction traduite par Marie Frankland aux éditions Mémoire d'Encrier. Et donc, le titre, oui, « Un Égyptien peut-il parler anglais ?» C'est un titre qui m'a tout de suite interpellée et qui, effectivement, je trouve que les titres en forme de question donnent envie de voir un peu ce qu'il y a dedans.
On se demande quelle va être la réponse.
S'il y a une réponse ou pas. Là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de réponse, mais donc ça se passe au Caire de nos jours. Il y a un va-et-vient entre deux narrateurs. Une femme... qui est un peu le double, je pense, de l'autrice, américaine d'origine égyptienne, qui décide de s'installer au Caire pour renouer avec ses origines qui ont été un petit peu mises de côté par les parents qui, eux, voulaient vraiment s'intégrer aux États-Unis et devenir de vrais Américains. Et elle, donc, elle s'installe au Caire pour enseigner l'anglais, tout simplement. Mais sa difficulté, c'est qu'elle a fait le choix de se raser le crâne. Et donc, elle est très mal vue dans la rue, enfin, mal vue ou en tout cas pointée du doigt ou interpellée. Voilà, elle a du mal à trouver sa place en tant que égyptienne, américaine. Enfin, et les Égyptiens comprennent mal son choix d'être revenue en Égypte alors qu'elle a un passeport qui peut lui permettre d'aller n'importe où. Qu'elle était très bien aux États-Unis et qu'est-ce qu'elle a à faire au Caire. Enfin voilà, il y a vraiment une incompréhension qui plane autour de ce personnage-là. Et le deuxième personnage qui prend la parole, c'est un Égyptien qui, lui, a quitté son village très rural pour s'installer au Caire également, qui a été là pendant la révolution arabe et qui a fait des photos de cette révolution et donc a percé en tant que photographe de presse. Sauf que depuis la révolution arabe, il n'a pas repris de photos et donc il se promène avec son appareil photo pour se donner un statut,
une contenance.
Ouais. Mais finalement, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, accro à la cocaïne, donc quelqu'un qui est en train de doucement sombrer. Et l'histoire raconte, donc en alternant leurs voix, raconte leur rencontre, et aussi, étonnant que ça puisse paraître, leur histoire d'amour, qui se noue de manière assez inattendue et qui va prendre une tournure pas forcément très positive, parce que c'est une histoire d'amour finalement assez toxique. Et donc on va voir comment l'un et l'autre arrivent à s'en dépatouiller, sachant que la question centrale, c'est pas tant leur histoire d'amour que leur place dans le monde. Elle en tant que immigrée par choix mais qui trouve pas sa place, lui en tant que rural qui arrive dans une ville qui trouve pas sa place non plus. Alors ce qui est très beau, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'écriture. Enfin, l'écriture est très belle, la traduction est très bien menée, et donc on est vraiment tenu en haleine, et ce va-et-vient entre les deux voix est très très bien mené aussi. Ce qui est très dépaysant, c'est qu'il y a vraiment de très belles pages sur la ville du Caire, avec son fourmillement, ses vendeurs de rue, les cafés. Donc voilà, en tant que lectrice occidentale, en plus ayant eu la chance d'aller au Caire, j'avais vraiment des images en tête, des ambiances qui étaient très bien restituées. Mais effectivement, le cœur du livre est plutôt quelque chose d'intime, intime et universel en même temps, parce que des gens qui sont déracinés par choix ou par obligation, il y en a beaucoup.
Pas qu'au Caire.
Voilà, c'est ça.
Allez, puis donc, un dernier coup de cœur. Apparemment, au titre, on se dit qu'on reste du côté de l'anglais, mais pas vraiment.
Non.
Laurence Boissier, Londres, 13h30.
Donc, aux éditions Art et Fiction. Et c'est rigolo, je me rends compte que là, j'ai présenté trois maisons d'édition indépendantes et qui ne sont pas à Paris. Donc, la première, Le Mot et le Reste, c'était Marseille. Mémoire d'un Crier, en fait, c'est une maison d'édition québécoise.
Oui, c'est ce qui me semble, c'est ce que je voulais l'évoquer tout à l'heure.
Et Art et Fiction, ils sont en Suisse. Donc, là, on est sur une bibliodiversité que j'aime bien, j'avoue. Et donc, la petite pépite de Laurence Boissier, Londres 13h30, se passe non pas à Londres, mais à Genève, dans l'aéroport de Genève. Et pourquoi Londres 13h30 ? Parce qu'une des protagonistes de ce petit livre guette les avions en provenance de Londres. On va comprendre petit à petit pourquoi. Alors, si vous voulez le lire, ne lisez pas la quatrième de couverture, elle est très mal faite, malheureusement. Donc, le livre met en scène 4 ou 5 personnages différents, là aussi avec un va-et-vient de point de vue narratif. Et donc, on est tout dans l'aéroport. Donc, il y a un personnage, donc, j'en ai parlé, qui attend les vols en provenance de Londres. Il y a une femme de ménage. Il y a un architecte qui est chargé d'aménager des zones de confort dans l'aéroport. Et évidemment, il va m'en manquer quelques-uns parce que quand on a une galerie de personnages comme ça, il y en a toujours quelques-uns qui ressortent et les autres qu'on oublie un peu. Mais en tout cas, ça va être au départ leur point de vue à chacun, chacune. Et petit à petit, leur rencontre, évidemment. Et comment ils vont nouer d'amitié, comment ils vont, malgré des univers très différents, avoir des choses à se dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est des petites bribes, vraiment des formes très courtes. Le personnage central, donc Emilienne, qui attend ce vol en provenance de Londres, tient un journal des gens qu'elle observe. Donc il y a des petits bouts de journaux aussi. Et cette forme courte donne vraiment des espèces d'instantanés avec pas mal d'humour, quelque chose d'assez pétillant, enfin, un livre qu'on referme en disant « Ah, ben, j'ai passé un bon moment avec des personnages avec qui je... » Voilà, qui sont presque devenus des amis, alors que le livre est très court, mais voilà, c'est suffisamment bien fait pour qu'on ressente de l'amitié pour les personnages, et c'est chouette.
Merci beaucoup Magali, donc on a toutes ces lectures, chers auditeurs, bah, vous pouvez réécouter le podcast et puis vous aurez toutes les références. Vous allez voir sur le site de Divergence et il y aura un petit article où on donne toutes les références aussi. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis à une prochaine visite.
Oui, à bientôt, merci.